Le bar à...
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Cha-cha-cha.
Qu'est-ce qu'on a ?
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse
de Radio Saint-Afrique. Salut à toutes et à tous, auditrices et auditeurs du Bar à Chat. C'est Chamanta au micro qui miaule d'excitation à l'idée de vous retrouver pour une nouvelle émission. Ça y est, nous sommes en mars et le printemps ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Mais avant lui, comme vous le savez sans doute, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Et donc non, ce n'est pas la journée de la femme, comme si toutes les femmes pouvaient se réduire à une seule identité. Les femmes sont nombreuses, diverses, uniques, différentes. Et le 8 mars précisément, ce sont leurs voix, multiples et plurielles, qui se font entendre. Les Nations Unies ont officialisé cette journée en 1977 avec l'International Women's Day. Ça se traduit bien par la journée des femmes au pluriel. Alors prenez-en bonne note parce que les mots ont un sens. Et pour fêter ça, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table des chattes et même un matou. Oui, nous avons un matou avec nous dans le studio. Alors, un petit tour de table, nous avons ici Mémeille.
Bonjour à la compagnie.
Bonjour Mémeille, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de l'Académie française.
Oh, c'est sérieux ?
Ah, chouette.
Il y a également Félice Potin. Salut Félice.
Salut miaou à tous.
Que vas-tu nous raconter ?
Eh ben moi j'ai plusieurs petites surprises, mais j'en ai une grosse. Déjà, je voudrais rafraîchir la mémoire d'un petit peu nos éditeurs et nos auditrices sur les droits des femmes et sur les lois.
Ah, rappel salutaire. Et nous avons donc notre matou du mois, j'ai nommé Greg.
Bonjour.
Que vas-tu miauler dans le micro ?
Eh bien, je vais miauler. Pourquoi le 8 mars, c'est très particulier pour moi, tout simplement.
J'ai super hâte de vous entendre. Et pour ma part, je vais vous parler des stéréotypes entre les femmes et les hommes qui sont toujours bien présents en 2017. Merci à toutes et tous d'être là. Merci, chères auditrices et auditeurs. Nous sommes ensemble pour cette émission spéciale Journée internationale des femmes. Et on va commencer par se rafraîchir un peu la mémoire, donc, avec Félice Potin, qui va intervenir plusieurs fois dans cette émission. C'est à toi.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez plus seule chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat. Élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra. Vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile, vous le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radeuses, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas.
Alors, on peut noter que l'interprétation du droit ne change de sens qu'au fil des siècles. Les droits des femmes n'ont réellement évolué en France que très récemment. On démarre en 1791. Marie Gouze, dite Marie-Olympe de Gouges, écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. « Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune », disait Olympe. On ne peut pas dire que ça lui ait porté chance, vu qu'elle s'est faite décapiter en 1793 par des révolutionnaires qui voulaient démocratie et égalité, mais visiblement pas pour les femmes. 1792, la loi permet le divorce par consentement mutuel. Puis on change de siècle, 12 ans plus tard, en 1804, le Code civil prévoit que le mari doit protection à la femme doit obéissance à son mari. Alors là, c'est clair, si elle veut pas en prendre une, elle doit obéir.
Lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille.
Quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, mon vieux, range ton bâton et place aux adieux.
Alors, 1850, création obligatoire d'écoles de filles dans les communes de 800 habitants. Et en 1876, Hubertine Auclair fonde le droit des femmes qui soutient leur droit au vote. Alors, on ouvre un nouveau siècle par le prix Nobel de physique décerné à qui ? À Marie Curie, alors
ah,
les filles,
Marie Curie, mais
en 1903. Alors en 1920, la loi assimile la contraception à l'avortement considéré comme un crime. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une liberté pour les femmes, mais la Première Guerre mondiale, particulièrement meurtrière, étant passée par là, il y a sûrement une relation de cause à effet. Repeuplons la France après avoir envoyé nos hommes se faire réduire en bouillie. 1924, même programme scolaire pour garçons et filles, et ils passent le même bac. Inutile de dire que les garçons n'apprennent pas à faire un soufflet, mais les filles ont enfin accès aux maths, à la philo et aux sciences. Ouf. 1938, suppression de l'incapacité juridique de la femme. 1944, enfin, le droit de vote est accordé aux femmes en France par une ordonnance du Comité français de la Libération nationale, signée par Charles de Gaulle depuis Alger. Pendant l'occupation, de nombreuses femmes ont rejoint la résistance. On ne peut ignorer leur engagement. Et le nouveau pouvoir politique reconnaît l'égalité économique et politique des sexes. Les Françaises voteront pour la première fois en 1945 et entreront au Sénat en 1946. Donc en 1946, suppression de la notion de salaire féminin. En 1956, fondation de la maternité heureuse, qui devient en 1960 le mouvement français pour le planning familial. 1965, les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. C'est pas mal, hein. 20 ans après le droit de vote, 9 ans après celui d'une maternité heureuse, c'est pas très rapide. Elles se sont battues 10 fois plus que les hommes pour faire valoir leurs idées et sur leurs conditions. 1967, loi Neuwitz autorise la contraception. On fête donc cette année les 50 ans de cette loi. C'est dire si elle est récente. L'autorité parentale remplace la puissance paternelle en 70. En 72, reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal. Et on ne peut pas dire que ça soit tout à fait réglé. Ah. C'est une des lois qui survit comme un vœu pieux.
Chérie, sois plus belle. Oh chérie, je suis ton président. Mon taux de croissance est supérieur à celui d'un patron de gauche. Car il n'y en a pas de même qu'il n'y a pas d'hommes de gauche. Quand il s'agit de femmes, il n'y a que des hommes de droite dans la seule patrie existant sur la terre. Patria, patriarca, patriarca. Patriarca, 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 patrie, patriarca, patrie.
Si trois femmes furent nommées en 1936 à des postes de secrétaire d'État dans le gouvernement du Front populaire de Léon Blum, alors qu'elles n'étaient encore ni électrices ni éligibles, pendant 26 ans, il n'y a plus eu aucune femme à aucun poste du gouvernement. Il faut attendre 1974 pour voir la première femme ministre, Simone Veil, ministre de la Santé, de 1974 à 1979, et encore 10 ans avant qu'une femme soit Premier ministre, et c'est Edith Cresson, de 1991 à 1992. Donc en 1975, la loi Veil pour l'interruption volontaire de grossesse.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
1976, la mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics et c'est seulement 4 ans plus tard, en 80, qu'est élue la première femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. En 82, l'IVG est remboursée par la Sécu. 83, la loi d'Yvette Roudy, ministre déléguée des droits de la femme en 81, pose le principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, encore. En 84, le congé parental est ouvert à chacun des parents. 93, principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, que les parents soient mariés, concubins, divorcés, séparés. Et la loi NIRTS condamne l'entrave à l'IVG. 99, création du PACS. Maintenant, on passe au siècle actuel. 2000, mise en œuvre d'une politique globale d'égalité des chances dans le système éducatif et condamnation de l'entrave à l'IVG, nouvel épisode. Puis promulgation de la loi sur la parité politique. 2001, augmentation du délai légal de l'IVG de 10 à 12 semaines. 2002, création du congé de paternité qui est aussi une lutte de femmes. Reconnaissance de l'autorité parentale conjointe, de la garde alternée et de la coparentalité. L'enfant peut porter le nom de ses deux parents. 2004, la loi relative au divorce introduit la procédure d'éviction du conjoint violent. 2005, le traitement de récidive des infractions pénales donne possibilité au juge pénal d'ordonner à l'auteur de violence de résider hors du domicile ou de la résidence du couple. Il était temps. 2006, la loi renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou contre les mineurs. Y ajoute le partenaire pacsé et l'ex-ex. Introduction de la notion de respect dans les obligations du mariage et l'âge légal du mariage pour garçons et filles est à 18 ans. Puis la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Encore, 29% des entreprises sont créées par des femmes. Leurs salaires sont inférieurs de 27% à ceux des hommes. À part ça, il y a des lois sur la parité et l'égalité. 2008, inscription dans la Constitution de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 2012, loi contre le harcèlement sexuel. Et 2014, loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et 2016, loi qui renforce la lutte contre le système prostitutionnel. Alors, si les différents gouvernements depuis la Révolution française ont plus ou moins fait de la place aux femmes dans la société civile, comme au poste de haut fonctionnaire, il est quand même intéressant de remarquer qu'il faut revenir encore et encore sur ces lois pour assurer le strict minimum du respect des textes dans le quotidien, et elles ne sont toujours pas rentrées dans les mœurs. Alors un appel à toutes les jeunes et très jeunes femmes. L'histoire est pleine de situations qui prouvent que rien n'est acquis. Alors ne baissez pas la garde, ne lâchez rien. Et après ce petit rappel, et parce que les hommes, nous, on les aime, un petit extrait de Tendresse avec Vincent Baghian. Ce soir, c'est moi qui fais la fille.
Pourquoi le regard qu'on maquille, c'est toujours pour toi. Ce soir c'est moi qui fais la fille, enfin tu sauras. À quel point le rouge à ta bouche peut rendre zinzin. Combien certains soupirs me touchent autant que mille mains. Je veux que ton désir farouche te semble malsain. Que tu te sentes un peu louche en prenant ce qui m'appartient. Ce soir c'est moi qui fais la fille, enfin tu sauras. Pourquoi le ventre qui gonfle, c'est jamais pour moi. Je voudrais bien être une fille, au moins pendant 9 mois. Me sentir moins inutile et mettre au monde une fille pour qu'elle soit un peu plus à moi.
Merci, Félicie, la suite tout à l'heure.
Bon, j'espère que ça n'a pas jeté un froid, tout ça.
Non, bah... non, mais on se demande à quoi servent les lois, quoi, c'est tout.
Oui, c'est vrai.
C'est ça, ouais, en fait. Ça c'est incroyable, peur. Quoi. Mmh. Et puis, c'est quand même assez récent dans l'histoire, la majorité des choses que tu as dit. Donc, waouh. Et donc, on va voir la suite tout à l'heure de ce devoir de mémoire. Et pour l'instant, je me tourne vers Mémeille. On me dit que tu es fâchée avec l'Académie française.
Alors, voilà, je vais vous parler de l'Académie française et de la journée. Alors, je vous signale tout de suite, hein, en France, on dit... Excusez-moi, la journée de la femme, parce que l'Académie française refuse toute autre interprétation. Mais fort heureusement, aux USA, il n'y a pas d'Académie française. Donc, eux, ils se sont permis de dire les femmes. Bon, alors je vais vous causer de la journée de la femme, comme ça me parle. Et d'abord, à quand une journée de l'homme pour qu'on se marre un peu? Qu'en pensez-vous, les chattes? On se fait une émission sur la journée de l'homme.
Ah ouais.
Il faudrait demander aux Angry White Men. Vous connaissez? C'est des fondus mâles, blancs, américains, qui voudraient voir les femmes soumises à tous leurs fantasmes. Et surtout, disparaître du paysage politique et professionnel. C'est vrai qu'ils ont du souci à se faire. Voilà ce qu'on trouve dans Le Monde sous le titre « Mal in USA ». Selon une étude des Nations Unies, les garçons sont en retard dans toutes les matières scolaires dans 61 sur 63 des pays les plus développés. Je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir qui sont ces deux pays qui échappent à la domination intellectuelle des filles. Vous pouvez faire des pronostics.
Ce ne doit pas être nous. Hein.
Donc, ces garçons, ils ont moins de chances d'être diplômés, de trouver un bon job, moins de chances qu'une femme s'intéresse à eux. N'oublions pas que nous sommes aux USA. Un certain Warren Farrell, qui a écrit un livre intitulé « Le mythe de la domination masculine », voit dans la victoire de Donald Trump une réponse à la souffrance masculine. Une victoire pour les vrais hommes qui sont victimes du féminisme et du politiquement correct.
Wow.
Misogynie de mâles qui pensent que leur virilité est bafouée et qui espèrent donc, avec Trump, reprendre la main face au genre féminin. Allez, on va réfléchir à une journée de l'homme.
Fidèle supporter d'un club de foot en tête du championnat, tenir des propos stupides et vulgaires quand un joueur tire et ne marque pas. J'aurais pu être de cette équipe-là qui joue les matchs sur un terrain plasma pour délaisser sa belle pour un ballon. Faut vraiment avoir du poil au menton. J'aurais pu être pilote de Formule rien, un de ceux qui rêvent de jonter de chrome, de vitesse débile, de virage sans frein, chose inutile dans la folie des hommes. J'aurais pu être de ces écuries-là qui font les courses où il ne le faut pas, mais pour braver le danger comme un con, faut vraiment avoir du poil au menton. J'aurais pu être la peur des samedis soirs, terreur des rues qui hurlent avec les poings, l'orage qui frappe aux abords des comptoirs, celui que l'on évite et que l'on craint. J'aurais pu être de cette trempe-là qui pour communiquer ne parle pas, et pour avoir si peu de choses dans le citron, faut vraiment avoir du poil au menton. Que nous le devons. Aujourd'hui nous savons qu'un tas de cons respire avec ou sans poil au menton. Si notre monde ne tourne plus vraiment rond, c'est à l'être humain que nous le devons. Aujourd'hui nous savons qu'un tas de cons respire avec ou sans poil au menton.
Et c'était La Mordue. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Je vais vous parler de l'Académie française.
L'Académie française.
Ça va pas la tête que vous allez me dire. Il n'y a que des mecs là-dedans. Eh bien, justement, vous savez sûrement que ce sont les académiciens, actuellement 31 mâles et 5 femelles, qui fixent le sort de la langue française. Je pense que vous n'avez pas trop de mal à imaginer comment ils traitent le sujet quand il leur faut s'intéresser aux déclinaisons féminines du vocabulaire ou de la grammaire. Pour vous éclairer, je suis allée consulter des articles parus à la suite de la sortie d'un bouquin « L'Académie contre la langue française », écrit par un collectif sous la houlette de Eliane Viennot, qui ne cesse de dénoncer le sexisme en différents lieux et différentes situations depuis 25 ans, et qui, elle, a écrit un bouquin intitulé « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». De quoi s'agit-il ? Au temps bienheureux des poètes du Moyen-Âge, il était évident pour tout le monde qu'on parlait des femmes avec des mots féminins et des hommes avec des mots masculins. Comme ça avait été toujours le cas depuis le latin. Et même, on ne parlait pas de l'homme ou de la femme, mais des hommes et des femmes. vous saisissez la nuance, comme le disait Chamonta. Par exemple, une femme disait « J'étais née pour être sage et je la suis devenue ». Ou pour des règles de l'accord, on disait « l'œil et la bouche ouvertes » et non pas « ouvert », en vertu du fait que l'accord se faisait selon le mot le plus proche. « Ta-ta-ta-ta-ta », disent les masculinistes, « il n'est plus question que le féminin domine le masculin », au prétexte que le masculin serait le genre le plus noble. Au XVIe siècle, s'il y avait encore des ronsards pour parler d'une femme pendante à son cou et attendante son pardon, il y avait déjà un Dubélé qui s'attaquait aux déclinaisons et voulait faire que la règle « le masculin l'emporte sur le féminin » devienne effective pour tout le monde. Et même s'il a fallu encore 2 siècles pour que la victoire soit totale. Malherbe et Vaugelas ont mené l'offensive au XVIIe siècle, et les attaques contre l'égalité linguistique des sexes se sont multipliées pour culminer avec ce fameux siècle des Lumières qui a vu, comme je le signalais dans une autre émission, l'apogée de la chasse aux sorcières. Et ce n'est pas un hasard. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de dominer, d'exclure, mettre en conformité la langue et l'organisation patriarcale de la société, dénier tout pouvoir aux femmes, les refuser dans les universités, les faire disparaître de la scène publique. Le contrôle des esprits passe par celle de la langue. Cette position, faire du masculin une dominance dans tous les cas, s'est radicalisée parallèlement à la progression de la monarchie absolue. Et la révolution de 1789 n'a rien changé. Les bourgeois ont repris le pouvoir avec les mêmes vues sur les femmes. Et d'ailleurs, comme dans bien d'autres domaines. Et c'est comme cela qu'est née l'Académie française, créée en 1630 par Richelieu, pour asseoir définitivement le français sur tout le territoire et régenter la langue avec la volonté de faire triompher le masculin. Affirmer, confirmer, formater, pour qu'il soit bien clair que c'est l'homme qui domine, avec toutes les conséquences politiques et sociales d'une telle posture. Le travail de cette institution a été d'éliminer de la langue française la majorité des accords grammaticaux féminins, et veiller à un vocabulaire masculin. L'avancée décisive de ce français fut la création de l'école républicaine, au XIXe siècle, qui a imposé et généralisé les règles masculinisantes. L'État soutient les ouvrages qui font leur credo de la règle « le masculin l'emporte sur le féminin », ce qui, dispensé aux lycéens et aux écoliers, formate judicieusement l'esprit de tous les citoyens dès l'école primaire.
Dans mon sous-sol crasse où brûlent mes fourneaux, où les âmes damnées grillent de bas en haut, regardez qui est là, qui attise les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme et vous vous en doutiez, la place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, comment pour m'invoquer faut-il que l'on m'appelle mes diables et mes hommes, et Dieu même en personne, tout simplement me nomme patronne. Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On l'attend proclamé sur un ton formidable. Le diable est une femme, les femmes c'est le diable. Et qu'elles soient victimes ou qu'elles soient complices de leurs malheurs et fils et de leurs maléfices, frappez dans les premiers talibans ordinaires ces démons adorés car il faut les faire taire. Calciné, lascive et si cruelle, messieurs, venez m'aider à ôter mes dentelles. dans vos brûlants émois, ainsi que je l'ordonne. Allez, appelez-moi patronne. Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice, consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses, qui susurre les ordres et les avis funestes. Vous, mes sœurs, les salopes, les putains et les bestes.
Pour en revenir à l'Académie française, la bataille contre le féminin est toujours active. Les académiciens défendent aujourd'hui les mêmes positions qu'en 1700. L'Académie française a travaillé, nous dit Eliane Viennot, à faire du masculin le genre grammatical devant lequel l'autre devait soit montrer sa soumission, soit disparaître, purement et simplement. Et aujourd'hui, la bataille est centrée sur la féminisation des noms de fonctions. Mais des fonctions supérieures. Pas de problème pour dire boulangère, secrétaire, hôtesse de l'air. Ce sont les autres qui dérangent, celles qui bousculent l'ordre traditionnel en parvenant à des postes prestigieux qui étaient autrefois le monopole des hommes. Je vous livre quelques perles de ces académiciens. 1980, Pierre Gaxotte, à propos de l'élection de la première académicienne. Si on élisait une femme, on finirait par élire un nègre.
Et... Oh, pardon. C'est quoi l'histoire?
En 80. Georges Dumézil, tant que je me souviens, c'est un anthropologue, en 84, soutient l'admirable substantif conne, seul néologisme féminin dont on ne peut plus se passer. Quelle rage ont donc les femmes de vouloir se fourrer partout où sont les hommes? Les Vespasiennes disparaissent, une à une. Il ne nous restera bientôt plus le moindre domaine réservé. Il faut que les hommes aient quelque refuge. Il n'est pas bon pour leur santé et leur équilibre de passer tout leur temps avec les femmes. Dit Jean Dutour.
Aïe, quand même.
Mais avec le nombre grandissant de femmes embrassant des professions qualifiées de masculines, la position de l'Académie française est de plus en plus intenable. Et s'ils insistent vraiment, ils ne vont pas tarder eux aussi à disparaître de la scène publique. C'est ce que suggère d'ailleurs le collectif Suscité. Il est grand temps, disent-ils, que l'État reprenne la main sur le dossier du langage non sexiste. Non sexiste. Ah oh, zut, non sexiste. Oh, il va falloir que je prenne des cours de prononciation
à l'Académie française.
Alors, non sexiste, en le confiant à des spécialistes. Il n'y a pas un seul linguiste à l'Académie française. Et laissez les académiciens jouer dans leur coin si ça leur chante. En conclusion, fini la domination du masculin. Je vous encourage à commencer par le langage, car contrairement au dicton, l'habit ne fait pas le moine, la forme influence le fond. Il faut donc rendre les genres égaux. À partir de maintenant, les chattes, vous pouvez sereinement, si ce n'est déjà le cas, faire d'énormes fautes de français en déclinant à votre guise les accords de genre. Et j'en ai fini.
Bon, moi, je propose qu'on fasse des papiers comme ça la prochaine fois.
Tout en féminisant tout.
Tout en féminin. En
voilà, moi qui adore... comment il s'appelle, là, ça y est. Voyage au bout de la nuit. Tu dois...
Céline. Ta bête noire.
Je voulais trouver un texte de Céline pour le mettre au féminin, que je me régale.
Bah, écoute, on peut remettre ça sur le tapis.
On peut faire ça une prochaine fois, oui.
Ouais, c'était vachement intéressant. Alors moi, je suis quand même surprise qu'il n'y ait pas un seul linguiste dans l'Académie française.
Voilà.
C'est fou, ça.
Et à l'heure actuelle, combien de femmes?
5 femmes.
5 femmes, d'accord.
Ils ne sont pas au complet là, ils ne sont pas 40. Donc il y a 5 femmes, 31 hommes. Et donc il en manque 4, mais voilà, ça m'étonnerait que ce soit. Il m'étonnerait que ce soit des femmes, quoique, peut-être acculées. Ils vont peut-être être obligés.
D'accord, les hermaphrodites.
Je ne ferai pas une
mauvaise blague.
Merci beaucoup, Mémeil, pour toutes ces infos. Et on continue notre devoir de mémoire avec toi, Félix.
Oui, alors moi, j'ai juste un petit rappel de comment le 8 mars est devenu la journée internationale des femmes, parce que voilà,
Parce que moi aussi, je dis des femmes. Donc, il y a une légende qui court sur la Journée internationale des femmes, démentie par l'historienne Françoise Pic fin des années 70. Françoise nous dit que toute la presse militante de l'époque, le PCF, la CGT ainsi que le MLF, affirmaient que la Journée des femmes commémorait la manifestation des couturières à New York du 8 mars 1857. Sauf que l'on ne trouverait aucune trace de cet événement. C'est en août 1910, à la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, et grâce à l'initiative d'une militante allemande, Clara Zetkin, qu'a été prise la décision d'une journée des droits de la femme. Oui, mais...
Des femmes !
Oui, mais c'était encore de la femme. Oui, parce qu'on en déplaise à certains, et c'est là que je te rejoins, la journée de la femme, ça fait un peu Saint-Valentin pour Bobonne, alors que la journée des droits des femmes, le message en jette quand même un peu plus, quoi. Donc nous, on choisit de dire des femmes. Donc au début du XXe, dans toute l'Europe, il y a des luttes ouvrières, des manifestations socialistes de femmes qui réclament divers droits, comme le vote, l'égalité avec les hommes, pouvoir occuper des postes dans la fonction publique, de travailler sans l'aval de leur père ou de leur mari, de meilleures conditions de travail, d'accès à la formation professionnelle et de l'élimination de la discrimination au travail. C'est 7 ans plus tard, en 1917, il y a donc seulement un siècle, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la journée dédiée aux femmes est fixée au 8 mars. Et c'est après 1945 que la journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. Bon, jusque-là, le grand public n'entendait pas trop parler. Mais grâce aux féministes des années 70, cette journée est remise au goût du jour. Et c'est encore une fois 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 77, que cette date est reconnue officiellement par les Nations Unies et en France seulement en 82. Commentaire ?
C'était il n'y a pas longtemps.
C'était il n'y a pas longtemps, ouais.
Mais merci pour l'info. Donc c'est pas... Bah, tu vois, on va se retrouver sur 1857.
Ouais.
Mais encore aujourd'hui, on voit parfois, enfin pour cette journée-là, promotion spéciale, ouais. L'aspirateur à moitié prix dans le magasin Trucmuche. Et tu te dis c'est qu'il y a clair. Quand même du boulot encore
ouais,
à faire.
Clair. C'est clair. Donc le 8 mars, toutes dans la rue, hein, les filles.
Et oui, toutes dans la rue, pour lutter aussi contre les stéréotypes. Allez, je vais vous parler un peu des stéréotypes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un stéréotype ? C'est une croyance partagée qui concerne les caractéristiques personnelles, traits de personnalité et comportement, d'un groupe de personnes. Les stéréotypes de genre sont des croyances sur les différences entre les hommes et les femmes, leurs compétences, leurs attitudes psychologiques, leurs ambitions et leurs comportements. Il s'agit de généralisations de ce que l'on attend des hommes et des femmes. Par exemple, on dit que la femme doit être serviable et douce, tandis que l'homme doit être fort et viril. Les rôles que l'on attribue aux hommes et aux femmes sont culturels. Ils peuvent différer d'un pays à l'autre, voire d'une région à l'autre. On peut classer les stéréotypes de genre en 2 catégories principales. La première catégorie, ce sont les qualités personnelles. On attend par exemple des femmes qu'elles soient tolérantes, à l'écoute, sensibles et séductrices. Par contre, on attend des hommes qu'ils aient confiance en eux, qu'ils fassent preuve d'agressivité, qu'ils soient ambitieux, compétitifs et exigeants. La deuxième catégorie des stéréotypes de genre, ce sont les comportements domestiques. On considère que les femmes s'occupent mieux des enfants, tandis que les hommes sont considérés comme étant meilleurs bricoleurs.
Ben oui.
C'est bien connu.
J'ai des exemples.
J'en ai aussi. Les femmes seraient aussi meilleures pour les tâches domestiques, tandis que les hommes réussiraient mieux au travail. Ces stéréotypes sont transmis par notre culture. On les acquiert de plusieurs manières. Déjà par l'influence parentale. Il a été montré que les parents ont des attentes différentes pour leurs filles et pour leurs garçons, même si cela reste souvent inconscient. Par exemple, ils attendent de leur fils qu'il soit indépendant, sûr de lui, ambitieux, travailleur, intelligent et volontaire. Pour leurs filles, ils attendent plutôt qu'elles soient gentilles, aimables, attirante, qu'elle ait de bonnes manières et soit une bonne mère. Même le ton de voix...
À 8 ans.
Même avant. Même le ton de voix utilisé pour parler au bébé est différent selon son sexe. Des études l'ont montré, on parle plus doucement à une petite fille et plus fermement à un petit garçon. Et les expressions du visage vont aussi être interprétées différemment selon le sexe du bébé.
Ah bon ? Et au bébé, quand on s'adresse au bébé.
Oui, incroyable. Et même quand on les observe.
Ah oui, ça c'est fou. Ouais.
D'ailleurs, c'est une des premières questions qu'on pose. Est-ce que c'est un garçon ou une fille ? Et ça va changer inconsciemment notre comportement vis-à-vis du bébé.
D'accord.
On accepte du bébé garçon des comportements qui sont refusés à la fille. Par exemple, l'agitation corporelle qui semble inquiétante chez une fille est acceptée chez un bébé garçon.
Non, moi, ça me fait chier pareil.
Cette différence va s'accentuer. Ainsi, à l'âge de 2 ans, le coup de pied rageur du garçon sera mieux accepté que celui de la fille.
C'est fou, ça.
Plus tard, les parents vont plutôt faire faire aux garçons des tâches d'entretien autour de la maison, comme la peinture ou tondre la pelouse.
Tondre la pelouse, ça sent le vécu.
Alors... Surtout qu'on adore ça.
Alors que les filles feront plutôt des tâches domestiques, comme la cuisine ou la lessive.
Ouais, elles adorent ça aussi.
Il y a un gène. Tout cela a un impact très fort. Des études ont montré que dès l'âge de 2 ans et demi, les enfants ont intégré les stéréotypes de genre et sont susceptibles de les généraliser à une variété d'activités, d'objets et de métiers. On acquiert aussi ces stéréotypes à l'école. Dès la maternelle, les garçons craignent de passer pour des poules mouillées ou d'être traités de gonzesses. Ils évitent tout comportement considéré comme efféminé et les jeux considérés comme féminins, comme la poupée par exemple. Dès l'âge de 6 ans, la majorité des filles se reconnaissent beaucoup moins que les garçons dans la catégorie « très intelligent ». C'est l'un des constats que l'on trouve dans un article qui a été publié dans la revue scientifique Science ce mois de février.
C'est fou ça.
Inconsciemment, les instits ne se comportent pas de la même façon avec les garçons qu'avec les filles.
Moi, il faut des ordinateurs, il ne faut plus d'instinct. Stop.
Et ils véhiculent leurs propres stéréotypes aux enfants. L'école reproduit des attentes différenciées vis-à-vis des filles et des garçons encore de nos jours. L'indiscipline des garçons est plus facilement tolérée. Elle est vue comme un comportement fâcheux, mais inévitable. Chez les filles, l'indiscipline est stigmatisée et rejetée parfois violemment, car on attend d'elles la docilité. Les filles vont généralement plutôt intérioriser... Ensuite, leur comportement, elles vont retourner ça.
Mais je comprends pourquoi j'aimais pas l'école.
Les enseignants interagissent en moyenne plus fréquemment en classe avec les garçons, 56%, qu'avec les filles, 44%. Les manuels scolaires aussi restent très stéréotypés. Par exemple, dans les manuels de lecture de CP, les femmes représentent 40% des personnages. Ce sont pourtant 70% de ceux qui font la cuisine et le ménage, mais seulement 3% de ceux qui occupent un métier scientifique, dans les livres. On va facilement voir Monsieur Durand qui achète une scie et une perceuse, tandis que Madame Durand achète un rôti de veau et un camembert.
Nous, les femmes, nous avons tendance à improviser quand nous ne trouvons pas de place de parking. Mais nous laissons toujours notre numéro de téléphone. Si nous trouvons un bout de papier, c'est pourquoi Nouvelle Renault Twingo vous offre l'option « Désolée de m'être garée là ». Des petites cartes qui vous font passer pour une fille sympa même quand vous êtes mal garée. Rendez-vous sur newtwingo.be pour commander gratuitement vos petites cartes d'excuses.
Donc en gros, si t'es poli, tu peux te garer comme une ligne à fière, il n'y a pas de problème.
Au moins les policiers ne sont pas sexistes et ils mettent des amendes à tout le monde, voilà.
Dans les livres, les jouets pour enfants, les stéréotypes sont aussi très présents. C'est flagrant dans les catalogues de jouets. Ceux pour les filles sont dans des pages roses couvertes de poupées, coffrets de maquillage, déguisements de princesses, dinettes, jeux de marchandes, poussettes, etc. Ceux des garçons sont dans des pages bleues où l'on trouve voitures, robots, pistolets, trains électriques, circuits miniatures, coffrets de chimistes et panoplies de Zorro. Et puis bien sûr, il y a les médias, on vient d'entendre une magnifique publicité, les émissions de télé, les films. Les femmes et les hommes correspondent le plus souvent à un modèle type blanc, hétérosexuel le plus souvent. Pour les femmes, minces et belles, pour les hommes, beaux et musclés. Ce qui prédomine dans les comportements adoptés par les femmes dans les films, c'est la douceur, le sentiment maternel, le soutien de l'homme et la disponibilité sexuelle.
À l'homme.
Oui, c'est ça. Pour 37 les... de le matin, c'en est bon exemple. Par exemple. Ouais, elle est vachement cool, elle est super sensible.
Pour les hommes, c'est la domination, la protection, le côté rationnel et compétitif. Ces clichés, intégrés en nous si profondément, nous poussent à des réflexes au quotidien. Il décourage les femmes, les empêche même d'envisager d'entrer dans une carrière prestigieuse, de tenter des domaines tels que la physique ou les philosophies, alors même qu'elles réussissent mieux à l'école, comme on l'a vu aussi tout à l'heure. C'est aussi parce que les célébrités ou autres génies de l'histoire humaine présentés à l'école sont presque tous des hommes. Les femmes manquent de modèles. Rebecca Bigler, professeure de psychologie à l'Université du Texas, pense que l'on devrait combiner l'éducation avec une information sur les discriminations sexuelles. Voici ce qu'elle dit. Nous devons expliquer aux enfants que les lois ont presque toujours été votées pour empêcher les femmes de devenir des grandes scientifiques, artistes, compositrices, écrivaines, exploratrices et chefs d'État. Les enfants seront alors plus enclins à croire en leur propre potentiel intellectuel et à contribuer ainsi à la justice sociale et à l'égalité en poursuivant leur propre carrière.
Toutes
des putes.
Ah ouais, c'est génial cette chanson.
Vous aurez bien compris le second degré.
Ah ouais, non, à poil chez le médecin légiste, je dois dire que c'est quand même pas très correct.
Allez, on continue un petit peu d'histoire avec toi, Félix.
Ah bah là, pas tellement d'histoire. En fait, puisqu'on est dans les huttes, je vais vous parler de quelques femmes célèbres. Mais quelques-unes, hein, celles qui me touchent beaucoup. Alors, si je vous dis Amantine, Aurore, Lucille, Dupin, baronne du Devant, romancière, auteure dramatique et critique littéraire, journaliste, née à Paris en 1804 et morte en juin 1876, vous répondez ?
Non.
Georges Sand.
Georges Sand, mais oui.
Ma star parmi les stars.
J'étais pas sûre, mais
Georges Sand. Alors.
Bon.
Donc elle compte parmi les écrivaines prolifiques, avec plus de 70 romans, 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, contes, pièces de théâtre et textes politiques. Et durant tout le Second Empire, elle se dépense sans compter en faveur des prisonniers politiques et dira « Pour sauver mes amis, je suis prête à mettre les pieds dans tous les crottins ». Moi, j'aime beaucoup.
Voilà, ne pas m'engager.
Alors, une autre femme que je trouve assez marrante, c'est Hedy Lamarr, la belle Hedy Lamarr, actrice d'origine autrichienne et juive, adulée au moment de l'âge d'or hollywoodien, fait scandale en 1933 en simulant un orgasme dans le film Extase. Elle inventa... En outre, avec son musicien de mari, Georges Antel, un système de communication pour torpilles radioguidées, si j'ai bien compris. Enfin bon, je ne suis pas une spécialiste, mais on s'est servi de son système de communication pendant la Deuxième Guerre.
Quel rapport ?
Il n'y en a aucun. C'est une femme libre qui est à la fois capable d'inventer des choses incroyables et à la fois capable de se mettre à poil en 1933 et de simuler un orgasme. Je trouve ça génial.
Vas-y, redis son nom.
Hedy Lamarr.
Hedy Lamarr.
Alors, Elisabeth Jeanne Crochrane, connue sous le nom de Nellie Bly, donc 1864-1922, c'est une pionnière du journalisme d'investigation. Elle est également la première femme à avoir accompli un tour du monde sans être accompagnée d'un homme. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Enedu Anna, qui signifie peut-être noble ornement du dieu ciel, fille du roi Sargon d'Akkad, 2300 ans avant Jésus-Christ. Alors pourquoi je vous parle d'elle? Parce que c'est une prêtresse et poétesse acadienne, mais c'est aussi la plus ancienne écrivaine dont le nom et une partie des écrits nous soient parvenus. Alexandra David-Neill, bon, tout le monde connaît, exploratrice, journaliste et écrivaine franco-belge. En 1924, elle est quand même la première femme européenne à séjourner à Lhasa, donc au Tibet pour ceux qui ne savent pas. Et bon, je vais finir avec Charlotte Delbault, femme de lettres résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a notamment consacré une grande partie de son œuvre à témoigner de son expérience dans les camps. Voilà, j'avais envie de vous parler de ces petites, de ces quelques petites grandes femmes.
Ça fait une super transition avec le papier précédent, du coup, où je disais qu'on manquait de modèles, et voilà que tu nous en sors toute une liste.
Il y en a plein d'autres.
Oui, il y en a plein d'autres. C'est sûr, mais c'est vrai que c'est, enfin, la plupart de ces noms, je les ai jamais entendus à l'école. Hein.
C'est voilà, à l'école. Voilà. Il n'y a que des hommes. Hein.
Oui, c'est à part Georges Sand, parce que tu lis un ou deux romans quand t'es petit. Enfin, nous, on avait
La Mare au Diable,
ce genre de trucs.
Marie Curie, voilà, j'avais entendu.
Marie Curie, oui.
Sinon, Marie-Antoinette, mais je ne sais pas si c'est tellement un modèle.
Ah, Marie-Antoinette, elle passe pour être une sorcière. Dans une exposition que je suis allée voir à Paris, elle est citée comme sorcière.
Ah, tiens,
avec Jeanne d'Arc.
Ah oui, ça, Jeanne d'Arc, forcément.
C'est marrant, Marie-Antoinette, j'ai toujours cru que c'était...
Moi, je trouve bon, que comme...
Et après, plus proche de nous, à connaître, il y a, on en parlait hier soir au cinéma, c'est la citoyenne Sorgue, qui a été l'une des leaders de la grève des cabanières de Roquefort en 1907, et c'était juste à côté d'ici.
D'accord.
Il y a du boulot qui est fait par l'Institut d'Histoire Sociale de Millau, et qui édite une revue qui s'appelle La Main Chaude, et dedans, ils en parlaient justement dans le dernier numéro.
Ah, même j'allais voir ça, moi, ça m'intéresse.
Citoyenne Sorgue.
Le coup de creuser. Et je rappelle à nos auditeurs et auditrices que notre émission tourne autour du thème de la Journée internationale des femmes du 8 mars. Et nous avons dans le studio un matou qui a quelque chose à dire sur ce sujet.
Eh bien oui, puisque nous les matous, c'est bien connu, on ne se soucie que de nous-mêmes. Donc je vais vous parler de moi et je vais vous parler de pourquoi le 8 mars est une journée très particulière pour moi. Car, en fait, vous ne le savez pas, vous avez entendu là pendant 45 minutes des femmes vous en parler, mais le 8 mars, c'est une conspiration. Comme on l'a dit parfaitement, preuve, c'est l'origine légendaire de la journée, la manifestation des couturières américaines de 1857 qui n'a jamais eu lieu, mais qui a donc été rapportée par le journal L'Humanité. Vous savez comme moi que les communistes, ce sont des gens fourbes et manipulateurs. On n'attendait pas moins d'eux. Mais il y a pire, et ça c'est moins connu. Pour cela, il faut remonter à l'été 1989. Nous sommes à quelques semaines de la chute du mur de Berlin. Alors que depuis des années, une femme, la quarantaine, habitante du sud Aveyron, désirait avoir une fille, alors qu'elle abandonnait l'idée d'avoir un enfant, la voici qui tombe finalement enceinte par l'opération du pas très Saint-Père. Ébranlée par l'événement mondial qui se jouait alors, la chute de l'Empire communiste, cette femme traversa une longue période de doute, de questionnement, de dépression, avant de finalement s'en remettre au progrès de l'humanité, à la science du capitalisme moderne et libérateur, et d'accepter finalement de conserver l'enfant. Dans la loterie du destin, cette femme, socialiste et féministe, n'eut pas le choix du sexe de son enfant. C'était un garçon. Le troisième. Et pour conjurer le sort, elle décida, car on le sait, les femmes décident toutes seules du jour de leur accouchement, rien que pour emmerder leurs compagnons, elle décida donc de donner la vie un 8 mars. 8 ans plus tôt, encore un 8, elle avait manqué de peu la date du 8 mars lorsqu'était né son premier enfant, le 10 mars. Peut-être la raison originelle de quelques difficultés de cet enfant-là avec les questions féministes, mais
on
cela
lui dira,
ne
on
nous
lui dira.
Regarde pas. Ces événements si troublants auraient-ils eu un impact sur la suite de la vie de cet enfant du 8 mars? Eh bien oui, oui, il est là, je suis là pour vous en parler, puisqu'il est bien sûr de moi qu'il s'agit. Le 8 mars est donc une conspiration de ma mère pour me rendre féministe. Voilà, vous le savez maintenant. Plus sérieusement, j'ai pas de souvenir d'avoir été biberonné au féminisme. Hein, c'est pas comme le communisme à Cuba, on l'injecte pas avec des seringues, on m'avait expliqué ça. La question des femmes, oui, on l'abordait dans une famille au partage des tâches moins inégalitaire qu'au XVIe siècle, mais pas encore tout à fait équilibrée non plus. Par contre, j'ai bon souvenir de ma mère qui allait à Millau, au groupe femmes, et puis avec la Marche mondiale des femmes aussi, c'était il y a une dizaine d'années, ma première manif avec elle, un 8 mars. Et puis ado, ma première grosse manif, cette fois tout seul, c'était un 8 mars 2005 à Toulouse, contre le contrat première embauche. Le même jour que l'entrée en éruption du Mont-Sainte-Hélène qui se réveille, et ça ne s'invente pas, il porte le même prénom que ma mère. Vous voyez, tout est lié. Plus tard, à la fac, j'ai découvert des militantes du féminisme, tendance matérialisme antipatriarcal bien affirmée, avec aussi l'importance de la non-mixité de temps en temps, juste pour voir parler entre femmes. La difficulté aussi de trouver comme mec une place juste quand on prend déjà par défaut toute la place quand on est un mec. Et puis le malaise parfois à voir ces féminismes avec un discours bien tranché reproduire consciemment ou pas des schémas de domination tout aussi marqués dans leur couple. Et oui, c'est compliqué de vivre ce qu'on propose comme idée. La première fois que j'ai pris la parole volontairement en mon nom seul, en tant qu'homme, pour parler de féminisme, de ce que j'en pensais, c'était pour la journée des femmes, il y a 7 ans. Avec quelques difficultés supplémentaires, puisque c'était en espagnol, avec une collègue de travail lesbienne, et on était au milieu de l'Amazonie bolivienne.
Buenos días, señoras, señores, amigos que están escuchándonos hoy día en este programa especial en honor al Día Internacional de la Mujer. En este momento tengo el placer de presentarles a Gregorio, compañero camarada que se encuentra en este momento trabajando para el proyecto PROMA.
Bienvenido, gracias. Bueno, es que hoy en día lo que encontramos aquí en Bolivia...
Voilà, on va pas épiloguer puisque à l'époque mon espagnol n'était pas encore tout à fait au clair. Mais ce jour-là, j'ai pu pour la première fois en tant qu'homme prendre la parole pour causer de patriarcat. De causer de comment c'est un système qui oppresse les femmes, et qui aussi, quelque part, met les hommes dans une position dominante avec tous les privilèges qui vont bien, mais qui leur donne un rôle social qui, de mon point de vue, n'est pas spécialement valorisant. Franchement, être avide de pouvoir, obsédé par le sexe, incapable de pouvoir freiner ses pulsions...
Tu parles de Donald Trump,
ni
c'est ça ?
De considérer la moitié de l'humanité comme lui étant égale et digne de respect... Moi, je trouve pas ça super gratifiant en tant que mec.
Non, c'est clair.
Et il faut croire qu'aujourd'hui, je suis pas le seul à penser comme ça, puisqu'il paraît, comme on racontait dans les manifs anti-féministes, anti-réactionnaires des années précédentes, que tous les mecs sont devenus des femmelettes. Ça se disait à l'époque. Et on regrette les hommes, les vrais. Si c'est, comme la plupart de mes potes de fac, être pas vraiment musclore, réfléchir parfois à la répartition des tâches au quotidien, pas foutre des mains au cul dans la rue, ou siffler aussi, et ne pas plaquer de force une nana contre un mur pour l'embrasser de force, parce que ça fait viril, tu comprends, comme dans les films, eh ben oui, femme-là, je prends plutôt ça comme un compliment. Quant au hasard des conversations, on me demande la date de mon anniversaire, j'ai souvent eu des commentaires du genre « Oh, mon pauvre, t'as vraiment pas de chance !» Eh ben si, en fait, pour moi, c'est une chance. C'est sûr qu'il y a toujours un coin dans son ego qui est froissé et que le centre de l'attention ne soit pas uniquement focalisé sur sa propre personne, mais s'intéresse à la moitié de l'humanité. Mais bon, ça passe en fait assez vite. Et puis, c'est pas une compétition d'intérêt. Je veux dire, je parle pas de compétition de la foire à la saucisse, de la gaudriole macho dans les pubs ou de la compétition des unes, des articles, une fois par an, sur les statistiques des violences, des viols, des femmes dans les conseils d'administration. Chouette, une de plus. Des inégalités dans la paix. Chouette, 5% de moins. Différences de salaire qui, soit dit en passant, sont aussi présentes dans le milieu des médias. La plupart des femmes étant assignées à des tâches de secrétariat ou de journalisme rédacteur premier niveau. Et la plupart des dirigeants restants sont là aussi des mecs. C'est pareil pour les programmations musicales à la radio. On avait eu il y a quelques temps les boudeuses qui étaient passées. Elles nous avaient demandé de faire une journée entière, une playlist juste avec des chansons de femmes. Et on s'était rendu compte en fait qu'on n'avait pas suffisamment de chansons pour tenir une journée.
Ça allait m'appeler.
Par contre, on pouvait tenir toute la semaine sans problème avec les mecs et bien sûr les instrumentales. Le côté positif du 8 mars, c'est que quand même, je constate ce jour-là que des personnes qui n'ont absolument rien à foutre de la condition des femmes, elles acceptent d'ouvrir un petit peu les yeux. Bon, un petit peu, je veux dire un écarquillement, c'est pas non plus les yeux complètement comme un lapin devant les phares. Mais pas suffisamment pour repenser intégralement le fonctionnement de leur couple, en profondeur. L'espace qu'ils peuvent occuper dans la maison, dans le métro, en écartant les jambes sans que ça serve à rien. Et le temps de parole qu'ils monopolisent le plus souvent. Mais déjà, pour juste se poser la question, c'est quand même déjà ça. Histoire de se dire que ça avance petit à petit, que c'est lent, que c'est super, super récent, toutes ces lois que tu expliques au début, Félix. Mais que ça va quand même dans le bon sens. Et ça, c'est déjà un sacré beau cadeau d'anniversaire.
Ouais, super.
Un matou optimiste.
Ouais, c'est bien.
Un matou avec nous.
Mais moi, je trouve ça plutôt cool. Ça dépend de comment tu regardes les choses. Le jour de ton anniversaire, t'as plein de nanas qui sont dans la rue, qui font la teuf. C'est génial.
Non, et puis après, c'est bien. Puis du coup, on a des sujets de discussion autres que la pluie et le beau temps, le jour autour du gâteau et tout. Non, c'est plutôt sympa.
Félix, tu voulais nous parler d'autres journées particulières?
Ouais, moi, je voulais vous faire un petit clin d'œil, vraiment pour détendre un peu l'atmosphère qui n'était pas tendue, hein, mais comme j'ai commencé avec des lois, tout ça. Donc, 1 minute 30, montre en main. Donc, la journée nationale est un jour de l'année dédié à un thème particulier au niveau national. Et on commence bien l'année avec le 22 janvier, qui est la journée nationale de la chips. Alors, le 19 mars, journée nationale du sommeil, bien. Le 20, celui de la journée sans viande. Et fin mars, journée nationale du fromage. Dommage que ça ne soit pas le même jour. Le 1er mai, c'est la fête du travail, mais c'est aussi la journée nationale du rire. Comme quoi, rien foutre, ça sert à se marrer. Donc, le 18 mai, je passe... C'est une journée nationale de la poubelle et des ordures. C'est vachement sympa pour ceux qui fêtent leur anniv. Le dernier mardi de mai, c'est la journée immeuble en fête. Ben, c'est dommage que ce ne soit pas avant de sortir les poubelles. Le 13 août, c'est la journée nationale des gauchers. Bien. Fin août, journée des oubliés des vacances. Moi, je vais la fêter cette année. Le 19 septembre, c'est la journée du transport public. Je ne sais pas s'il y a des transports publics ce jour-là. Je ne me suis pas renseignée. Le 24 septembre, c'est la journée nationale de l'engagement bénévole. Voilà une journée où on va pouvoir faire la teuf. Le 15 octobre, c'est la journée nationale des toxicomanies. Donc, si un jour on légalise le cannabis, la date est toute trouvée. Et le 19 octobre, c'est la journée nationale de l'ingénieur. Et alors là, c'est comme les chips, il faut qu'on m'explique. Bon, alors ce dimanche, c'est la fête des grands-mères. Donc, moi, je souhaite bonne fête à toutes les mamies. Voilà.
Merci.
Merci à toutes les chattes et aux matous pour tous vos sujets passionnants. Merci à Clément, notre super technicien.
Merci à vous.
Clément.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et un coucou spécial aux chasseurs qui nous écoutent dans la vallée de la Sorgue. Je vous rappelle que l'émission est diffusée le premier vendredi du mois ainsi que le mardi suivant à 11h et le jeudi à 16h. Vous pouvez aussi la retrouver en podcast sur le site radiosaintafrique.com, rubrique émission mensuelle culturelle. Célébrez dignement ce mercredi 8 mars et nous, on vous donne rendez-vous en avril pour manger du poisson.
Et bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Et bon anniversaire à toutes les femmes.
Oh, je vais trouver un homme.
Chalor.
Miaou.
Miaou, 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 miaou.
Le baraque.
Miaou.
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Sainte-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Sainte-Afrique.
Miaou.
Cha-cha-cha.
Qu'est-ce qu'on a dit ?
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse
de Radio Sainte-Afrique.